C'est le banquet, écoute-moi, le banquet de Saint.
Rue des Granges, pas de
Rue des Majots, le rendez-vous de la Maison du Théâtre. Un programme non essentiel, une émission contagieuse.
C'était un gamin.
Pour famille,
c'était un gamin.
Un gosse de Paris,
il n'avait que sa mère.
Pour famille, il n'avait que sa mère.
Une pauvre fille aux
grands yeux rougis par les chagrins et la misère. Elle aimait les fleurs, les roses surtout. Et le cher Bambin, tous les dimanches, lui apportait de belles roses blanches au lieu d'acheter des joujoux.
Aujourd'hui dimanche.
La câlinant bien tendrement, il disait en les lui donnant « C'est aujourd'hui dimanche. »
« C'est aujourd'hui dimanche. Tiens, ma jolie maman, voici des roses blanches. Toi qui les aimes tant, va, quand je serai grand, j'achèterai au marchand toutes ces roses blanches.
Pour toi, ma jolie maman. »
C'est aujourd'hui dimanche. Tiens, ma jolie maman. Voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Va, quand je serai grand, j'achèterai au marchand toutes ces roses blanches. Pour toi, jolie maman.
Viens ici, Stéphane. Je voudrais te présenter quelqu'un. C'est une surprise. Voilà, c'est Pierre. Je te présente Pierre. Pierre est le nouvel amoureux de maman. Pierre, voici Stéphane, mon petit garçon, mon ange. Pierre va venir habiter avec nous. Pas tout de suite, mais bientôt. Vous allez apprendre à vous connaître et tout se passera bien. Un petit garçon ne peut pas rester sans papa. Ton vrai papa pense à toi. Bien sûr, il ne t'oublie pas. Et nous ne l'oublions pas non plus, mais il ne peut pas être près de nous, comme tu le voudrais. Quand tu seras grand, peut-être. Alors Pierre s'occupera aussi de toi. Ça te fera du bien. Pierre, tu verras, aime beaucoup les enfants. D'ailleurs, tu peux l'appeler papa. Pierre est d'accord. Pierre l'a demandé. Nous allons être une vraie famille, tous les trois. Je suis si contente.
La bouche et les yeux de maman sourient en même temps. Mon papa tout neuf sourit aussi. Il a l'air gentil. Il dit, c'est sûr qu'on va bien s'entendre tous les deux. Je tends la main à mon papa cadeau. Un bouquet de fleurs blanches. C'est un jour de fête. Les fleurs blanches sont belles dans le vase noir sur la table de la salle à manger. Maman est heureuse. Elle a séparé le bouquet en trois. Je la suis. Tellement envie de sa joie et son rire. Son rire que j'ai l'impression d'entendre pour la première fois. Je suis son rire comme on suit un parfum, jusque dans sa chambre, où elle met encore des fleurs dans un vase, bleu, et enfin, dans le vase de la cuisine, rouge. Maman Soleil a mis des fleurs partout. Trois, sinon rien, a dit Papa Bonheur. Leur visage envoie tellement de lumière, je me réchauffe dans leur éclat. Tu vois comme je pense à toi. Tes préférées, c'est rose blanche. Et maman dit merci. Merci, 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 amour. Tu me gâtes tellement. Son sourire est si large qu'on croirait qu'il va lui déchirer les joues. Après, je ne les vois plus. Pendant un moment, je joue dans le salon. J'entends des bruits. Ils jouent aussi. Puis, plus tard, ils reviennent. Leurs yeux brillent encore plus. C'est les yeux des amoureux. Mon nouveau papa est en colère. Il crie. Quelque chose s'est passé. Maman a fait une bêtise. Je ne sais pas quoi, mais ça doit être grave, puisque papa, si gentil, a un autre visage. Gros vieux, gros yeux, grosse voix, grand geste. Je ne le reconnais pas. Il me fait peur. Maman répond, mais elle ne dit pas ce qu'il faut puisque papa crie encore plus fort. Je te l'interdis, si tu t'imagines que... Alors, elle dit qu'elle ne le fera plus. Je ne sais toujours pas quoi. Elle promet, elle se retourne, le visage rouge, elle me voit, baisse la tête et quitte la pièce. Tu viens faire un bisou à papa ? Son visage de nouveau changé, enlever le masque de méchant. Papa sourire est de retour. Je me précipite dans ses bras. Je suis tellement content. Je suis tellement soulagé. Il n'est pas en colère contre moi. C'est normal. Je n'ai pas fait de bêtises, moi. Il ne faut pas faire de bêtises. Elle le sait, maman, pourtant, puisqu'elle me le dit tout le temps. Je fais un câlin à mon papa d'amour. Maman est dans la cuisine. Ses yeux maintenant toujours fatigués et mouillés. On dirait qu'elle se laisse aller. Faut pas s'étonner après, si papa, elle m'énerve. Elle ne peut pas faire les choses comme il faut. Ça n'est pas si compliqué de faire attention. Moi, je fais attention, tout le temps, à cause d'elle. Papa est fatigué, elle pourrait comprendre ça. À cause d'elle, je dois être encore plus vigilant. C'est vrai que l'air change lorsqu'il est dans une pièce, comme si tout devenait dangereux. À cause d'elle, on ne sait plus vivre, on perd notre naturel. On essaie de ressembler à ce qu'il veut de nous, femmes et enfants, parfaits. Parfois, elle me regarde avec papa. Elle regarde combien il est gentil avec moi. Et on dirait qu'elle est jalouse. On dirait qu'elle ne comprend pas pourquoi, papa et moi, ça marche si bien. Moi, je me demande si elle ne préférerait pas qu'il s'acharne sur moi. Comme ça, on aurait le même ennemi. Maman dit qu'elle me protège, qu'elle est contente que je sois épargnée. Est-ce qu'elle ne voit pas que c'est moi qui la protège ? À cause d'elle, je ne me relâche jamais. Je la regarde tout le temps pour qu'elle ne fasse pas de bêtises. Je guette les signes pour anticiper. Et quand j'ai l'impression que ça va arriver, je ne sais pas pourquoi, mais comme un flair j'ai développé. Quand je sens que c'est possible, j'essaie de détourner l'attention, je m'occupe de papa, qu'il regarde ailleurs. Mais parfois, on dirait qu'elle le fait exprès. Je ne peux pas quand même prendre sa place. Elle aussi, elle doit se surveiller. Pourquoi elle ne fait pas ce que papa demande ? En vrai, je ne crois pas à sa protection. Si papa ne me gronde pas, c'est parce que je suis gentil, comme elle devrait l'être. Je ne crois pas qu'elle ait le pouvoir de me protéger, sinon elle le ferait pour elle. C'est trop facile de dire que c'est grâce à elle, c'est trop facile de dire qu'elle prend des coups pour qu'elle se sacrifie pour moi. C'est ma faute alors tout ça ? Non, moi je crois ce que papa dit. Je suis sûr qu'elle fait beaucoup de bêtises. Trop. Un jour, moi aussi, j'en aurai assez. Et elle se débrouillera, toute seule.
Bienvenue dans l'émission Rue des Majots. Vous venez d'entendre un extrait des Roses Blanches, pièce de Sarah Pep, parue aux éditions Koiné. Extrait lu par Delphine Galland et Julien Gros de la compagnie Yaena. Nous recevons aujourd'hui Mavicana Badinga, co-directrice de la compagnie Yaena. Bonjour Mavicana.
Bonjour Hélène.
Alors Mavicana, tu co-diriges avec Julien Gros la compagnie.
Voilà, exactement.
Compagnie que vous avez créée en 2016 avec la mise en scène de Burnout d'Alexandra Badea.
Voilà, c'est l'acte fondateur de la compagnie. En fait, c'est même la raison pour laquelle il y a une compagnie Yaena. Au départ, c'était vraiment la volonté de monter Burnout.
Et tu travailles actuellement sur ta prochaine création, qui sera donc Les Roses Blanches de Sarah Pep, pièce qui a été lauréate du prix Ado du théâtre contemporain en 2019.
C'est ça.
Alors cette pièce très touchante et même bouleversante, elle raconte l'histoire de violences conjugales dans un couple recomposé du point de vue de l'enfant. Elle interroge la position de témoin. Elle dénonce les fausses croyances à ce sujet. Elle montre également les relations d'emprise et le fonctionnement de la justice. Pourquoi avoir choisi ce texte ? Quelles ont été tes motivations pour le passer à la scène ?
Alors, au départ, monter un texte, c'est d'abord avoir un coup de cœur. Et en fait, donc, avec Julien, on travaillait sur le prix Ado, donc avec des élèves de La Houtois. Et donc, il y avait 6 pièces hein, sur le prix Ado. Il y a 6 pièces sur lesquelles on travaille dans le premier temps. Et en fait, Julien, après avoir lu Les Roses Blanches, il m'a dit « Ah, dis donc, ce texte, il se passe quelque chose. C'est fort, voilà. » Donc, je l'ai lu et je me suis dit « Bah, je le monte. » Pourquoi ? Au départ, c'est assez instinctif. Et puis, en fait, maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans finalement qu'on travaille dessus, que je travaille sur la mise en scène, voilà, sur ce que j'ai envie de projeter sur ce texte. Et alors déjà, moi, ce qui me plaît, c'est que l'enfant soit le centre de la pièce. Parce que pendant longtemps, on a cru que les enfants qui assistaient à des violences à l'intérieur d'un couple étaient de simples témoins. Et en fait, aujourd'hui, il est admis que ce sont des victimes. Et ce sont des victimes notamment parce que ça leur met des schémas en fait, de fonctionnement dans le corps, hein, on peut vraiment le dire, parce qu'une fois que c'est intégré, c'est complètement un chemin corporel. Et du coup, ces enfants-là, leur vie, elle commence avec un sacré handicap, parce qu'il y a un certain rapport à la violence, il y a un certain rapport à l'autre, un certain rapport à la domination, à la peur. Enfin, voilà. J'ai vu notamment que les enfants qui assistaient à des violences dans un couple, donc parfois ils prennent aussi les coups, hein, mais bon, parfois ils sont à côté, mais ça n'empêche que ça a un impact, et que par exemple, il y a des hormones qu'ils vont sécréter davantage que d'autres. Donc, en fait, ce que je trouve assez fort dans cette pièce, c'est qu'elle interroge, au-delà de la notion de couple, elle interroge la relation entre les hommes et les femmes, elle interroge la transmission, donc qu'est-ce qu'on donne aux enfants comme repère pour fonctionner avec l'autre, et avec l'autre qui n'a pas le même genre que moi. En l'occurrence, quand on parle de violence conjugale, hein, on sait qu'il y a des hommes qui sont victimes, mais les chiffres sont quand même assez précis, et c'est quelque chose qui est davantage subi, vécu par des femmes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à tirer ce fil-là, se pose la question de comment on a fait pour en arriver là. On sait que les chiffres sont bien plus impressionnants depuis qu'il y a eu confinement, mais juste avant, on était quand même à une femme qui meurt 1 jour sur 2. C'est quand même pas possible, en fait, concrètement. Quelque chose de fort se passe. Et du coup, d'interroger ça, mais d'interroger ça non pas en disant les violences, c'est pas bien, enfin ça, on est d'accord, on le sait tous, on est tous d'accord à peu près sur la notion. Maintenant, la question, c'est quand y a-t-il violence, pourquoi y a-t-il violence, et qu'est-ce qui, dans notre transmission, dans ce qu'on nous a transmis, dans notre éducation, dans le monde dans lequel on vit, qu'est-ce qui fait que ces violences-là sont particulièrement, s'expriment particulièrement fort et souvent? Et pourquoi est-ce que les femmes sont à un endroit de la société comme ça, où elles sont encore en train de devoir se battre toujours plus pour travailler, pour vivre décemment, pour juste respirer, quoi. Et en fait, ce que je trouve aussi intéressant dans cette thématique, c'est que, voilà, quand on parle de terrorisme, moi, je me suis déjà retrouvée dans le métro parisien, juste après une attaque, et on sent bien l'air. L'air ambiant, quoi. Et t'es dans le métro, il y a un bruit suspect et tout le monde a une réaction super forte. Et là, d'essayer d'imaginer ce que c'est que de vivre ça au quotidien chez soi. C'est-à-dire, tu ne vis pas en paix, tu as peur à n'importe quel moment de te faire taper dessus, de mourir. Enfin, et tes enfants, enfin voilà, il y a tous ces enjeux-là, je trouve, qui sont de façon très très simple abordés dans la pièce.
Oui, on peut dire que tu prends le relais un peu de Sarah Pep, qui dans son écriture, en écrivant la pièce, a mis sur le tapis, sur la place publique, ce sujet de la place de l'enfant, comme tu dis, qu'on a trop souvent occulter en tant que...
L'impact qu'on peut avoir, voilà. Oui, en tant qu'adulte, hein, qu'est-ce qu'on montre aux enfants, quoi.
Donc tu prends le sujet pour effectivement diffuser ce sujet, enfin qu'on parle davantage, il y a...
Et même pour que ça devienne un peu une question de société, en faire un enjeu de société, parce qu'à un moment donné, si autant de petites filles ne peuvent pas se projeter sereinement, on va dire, c'est qu'à un moment, nous, on est responsables aussi en tant qu'adultes. Donc vraiment, la question, c'est nous, enfin, à quel endroit on peut agir pour que ces violences-là, parce que là, on parle de violences conjugales, on parle de coups, mais en réalité, ce n'est pas que ça, des violences. Quand on parle de violences à l'égard des femmes, on parle d'une certaine façon de leur donner toujours l'impression qu'elles ne vont pas être à la hauteur, qu'elles ne peuvent pas le faire, de leur enlever leur modèle, parce qu'on le sait très bien que pour se projeter dans une vie d'adulte, on a besoin de modèles, et qu'à un moment, comment c'est possible que dans les programmes du bac, pour avoir une autrice, il va falloir encore combien de temps pour avoir une autrice, quoi. Enfin, c'est toutes ces questions-là. C'est qu'est-ce qu'on donne aux petites filles pour pouvoir se projeter sereinement dans une vie de femme, et qu'est-ce qu'on donne aux petits garçons pour comprendre qu'en fait, la petite fille d'à côté de toi, elle n'est pas moins que toi, elle peut faire les mêmes choses si elle en a envie. Enfin, voilà, c'est aussi cet endroit d'enjeu qui est l'endroit de... Je suis enfant, est-ce que j'ai le droit de rêver ? Oui, à quoi et pourquoi ?
Donc ce sera un spectacle engagé, militant, on a compris. Et je crois que lors de sa diffusion, qui est prévue à la Maison du Théâtre en novembre prochain...
Oui, 24 et 25.
Tu organiseras une soirée en participation avec la Maison du Théâtre, débat avec les associations qui seront invitées sur ce sujet.
Voilà, et en fait on va même aller encore plus loin parce qu'on est en train de monter une expo. Donc avec Karine Vernon, qui est notamment graphiste, qui est là, elle va faire une exposition sur un parcours de corset. On va travailler avec l'association Agena à Mianor, qui va suivre un stage d'écriture avec Marion Bonneau. Et donc on a deux stagiaires dans la compagnie, Timothée et Élise, avec qui je vais penser une autre partie de l'expo, qui aura pour vocation vraiment de se poser cette question de comment on en arrive là. Donc d'interroger et de donner à voir le monde dans lequel nous vivons pour qu'on comprenne bien que Stéphane, le personnage principal de la pièce, certes, il est victime, témoin de violence, mais aussi il vit dans un certain monde, et ça on l'entend dans la pièce à travers les discours d'autres personnages qui vont représenter le voisinage, les institutions. Au final, il y a tout un monde qui finalement, volontairement ou non, finit par cautionner ce genre de choses.
Dans ce projet de création, la bande-son est importante. Tu as notamment composé plusieurs morceaux. Oui. Peut-on parler d'un spectacle pluridisciplinaire ? Je sais que le corps, la présence du corps est aussi très importante.
Voilà, et après, je pense que... en fait, je pense que je suis assez pluridisciplinaire. Enfin, je pratique la danse, le théâtre et puis la musique. Et du coup, il y a comme un peu une évidence d'essayer de les réunir au même endroit. Parce que t'imagines bien, ça fait des années que tu fais l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et que t'essaies de rattraper des niveaux à gauche, à droite, de chercher, de comprendre. Et puis là, ce texte, effectivement, il y a quelque chose d'assez fluide dans l'écriture qui donne envie... En fait, l'écriture, elle est super simple. Ça parle à tout le monde, c'est très clair. Et donc, on a envie forcément de lui donner encore plus de relief. Le travail du corps, pour moi, c'est assez indissociable du travail du comédien parce que c'est quand même le même instrument de travail, même si ce n'est pas utilisé de la même façon que le danseur. Ça reste l'objet principal. Et puis, le rapport au son, dans cette pièce, il était assez évident pour moi qu'il y avait de la musique, qu'il y avait... Alors, il y a la musique, et puis après, il y a un autre rapport au son aussi que j'aimerais développer, mais bon, je ne vais pas trop en dire parce qu'on est encore en tout début de recherche, donc c'est des choses à essayer, mais... Moi, j'aimerais qu'il y ait une partie du son donc, qui soit... pour parler de la musique quand même, moi, j'ai écrit ces morceaux-là, mais l'idée ensuite, c'est de les faire enregistrer par des musiciens en studio. Là, j'ai des versions qui sont telles quelles, en l'état, j'ai envie de dire. Mais le but du jeu, c'est qu'à la fin, ce soit interprété par des musiciens, donc de la basse, de la batterie, du clavier, enfin voilà, plein de petites choses.
Qui seront sur scène, qu'on retrouvera ?
Qui ne seront pas sur scène, parce que ce n'était pas prévu comme ça au départ du projet. Je ne sais pas si c'est un petit regret, ou pas, mais c'est vrai que plus ça va et plus ça me paraît assez évident qu'ils auraient pu être sur scène. Bon, après, c'est pas le même spectacle s'ils sont sur scène, c'est pas les mêmes tailles de salle, c'est pas le même prix, tout ça, quoi. Donc pour l'instant, voilà, on va le faire comme ça et puis ce sera bien.
En préparant cette émission, nous t'avons demandé de choisir un texte que tu aimerais partager avec les auditeurs de Radio Campus.
Oui.
Tu nous as proposé une pièce de théâtre pour enfants qui vient d'être publiée à l'École des loisirs. Il s'agit de Pépite de Marion Bonneau.
Oui.
Est-ce que tu peux nous la présenter ?
C'est un texte beau. En fait, c'est très simple. C'est pareil, c'est une écriture qui va vraiment à l'essentiel. Il n'y a pas de fioritures. C'est super rythmé. L'écriture de Marion est souvent très très rythmée. D'ailleurs, avec Delphine justement et puis Julien, on a l'occasion de travailler avec Marion par ailleurs en tant que metteuse en scène. Et c'est vrai que notamment dans le travail qu'on fait avec Delphine, on est beaucoup sur un travail entre la danse et le théâtre, le mouvement et le texte. Et c'est vrai que dans l'écriture de Marion, on sent déjà beaucoup cette envie, ces mots qui dansent. Enfin voilà, c'est vraiment un beau texte.
Oh pardon, pardon, vraiment désolé, je...
Tu peux pas faire gaffe.
Je m'excuse. Attends, je vais t'aider à te relever.
Tu me touches pas. Tu me laisses. Tu me laisses.
Attends, prends ma main.
Vire.
Ok. Encore. C'est de sa faute aussi. Il a vibré pendant que je courais. Je voulais regarder le texto et boum. C'est ma grand-mère. Elle m'attend. Et comme je suis en retard, elle croit que je l'oublie.
Je m'en fous complètement de ta vie.
Ah ?
Ouais.
T'es fâchée ?
Pas du tout.
Ça se comprend. Je t'ai donné un sacré coup. T'as mal ?
Je sens rien. Tu piges ?
Tu peux marcher ?
Bah évidemment que je peux marcher. Je fais une pause là. Laisse-moi. T'es sourd ou quoi ? Je te dis de me laisser.
Je fais une petite pause moi aussi. À côté de toi.
Pas trop près.
Ok, pas trop près. Quand même, ça chauffe mon bras. Je vais avoir un bleu. Pas toi ? C'est poussiéreux par terre. Vachement poussiéreux. Faut dire que ça fait un moment qu'il a pas plu. Le dernier jour de cours, je crois bien. On dirait que la pluie, elle a pris des vacances aussi. Tu feras gaffe entre le vent. Ton jean, il doit être tout sale derrière. Mais c'est pas grave, ça se lave.
Ouais.
Je t'ai jamais vu avant.
J'étais pas là avant.
Ah ? Et t'étais où ?
Qu'est-ce que ça peut te faire ?
Rien, c'est juste pour parler.
Ben moi, j'ai pas envie de parler.
Alors on a qu'à se taire.
C'est ça.
Salut.
Salut.
Ben t'es revenu finalement.
Pourquoi finalement?
T'es partie comme une voleuse l'autre fois. Je me suis dit...
Une voleuse? N'importe quoi.
Bah t'es partie sans un salut ni rien.
Oh là là, j'avais oublié que j'avais un truc à faire. C'est pas non plus comme si...
Mais c'est pas grave. Je croyais pas te revoir de sitôt, c'est tout.
Moi non plus.
Ah? Tu passes souvent par le parc?
Pourquoi?
Comme ça. Comme moi aussi.
Tu poses vachement de questions tout le temps, toi.
Bah je m'intéresse.
C'est toujours louche, les gens qui s'intéressent.
Ah bon ? Pourquoi ?
Les gens qui posent des questions tout le temps aussi.
Tu me trouves louche ? T'es là pour les vacances ? Non, mais t'es pas obligé de répondre, surtout si t'es pressé.
Mes parents, ils viennent d'emménager. Enfin, ma mère. Salut.
Ah, alors tu vas venir au collège à côté ? Mon collège ?
À ce qui paraît.
Comme moi.
Chouette.
Ben ça, c'est de la chance d'être tombé sur moi.
Si tu le dis. Allez, salut.
Je suis sûr que tu peux être sympa.
Je suis sympa, là.
Bah tu vois, je le savais.
N'importe quoi.
I ain't got no home, ain't got no shoes, Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirt.
C'était notre émission Rue des Majots avec Mavicana Badinga, co-directrice avec Julien Gros de la compagnie Yaena et metteuse en scène des Roses Blanches. À découvrir la saison prochaine dans la programmation de la Maison du Théâtre. Je vous rappelle pour les auditeurs que les livres de la bibliothèque de la Maison du Théâtre restent empruntables sur réservation. Merci Mavicana.
Merci Hélène.
Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site radiocampus.fr et sur le site amiens.fr/maison-du-théâtre. Nous nous retrouvons dans 15 jours. D'ici là, bonne lecture.